Interview.
1 du jour.
Bonjour à tous et bienvenue sur RDWA à l'écoute sur le 107.5 FM et sur le site www.rdwa.fr. Aujourd'hui, je reçois Laurence Côté, donc plus connue certainement sous le nom d'auteur de Constance Larsen, juriste de formation, aujourd'hui coach et accompagnatrice de personnes désirant arrêter l'alcool, à l'initiative de la journée sans alcool et auteur de 2 livres. On les évoquera plus en détail avec Laurence. Donc, petit laïus. Après la mort de son mari et des relations familiales difficiles, Laurence, victime de ses démons, entre dans une phase alcoolique qui durera 10 années. C'est un accompagnement thérapeutique ainsi que l'écriture qui l'aideront à trouver la force de s'en sortir. Elle nous offre pour commencer le livre à écrire où elle retrace sa vie de son enfance ailleurs. Elle évoque sa famille, son mari, Pierre, son travail, ses amis et enfin sa libération alcoolique. Après 5 ans d'abstinence, Laurence met en place une méthode douce d'accompagnement, un coaching pour les personnes désireuses de sortir de cet enfer. C'est donc autour de ce parcours que je reçois Laurence Côté dans cette interview. Alors pour commencer, bonjour Laurence.
Bonjour Aurélie et bonjour à tous les auditeurs de votre belle radio.
Alors si vous voulez bien, Laurence, je vais profiter de votre présence à l'antenne d'RDWA pour que vous évoquiez avec nous votre passé, votre parcours d'alcoolique. Comment sombrez-vous dans cette maladie et comment en ressortez-vous ?
Oui, je vais m'exprimer de manière très simple et sans tabou, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'alcoolisme, qui est donc une maladie, souffre de ne pas suffisamment être évoqué simplement et sans tabou. Alors, j'ai 52 ans et j'ai un passé d'alcoolique. Vous avez dit tout à l'heure 10 ans, mais en fait c'est 15 ans. C'est-à-dire que à partir de 35 ans, je perds tragiquement mon mari d'un cancer et là, me retrouvant seule et gérant mal un deuil, je tombe très rapidement dans la dépendance à l'alcool, sachant que je précise qu'avant 35 ans, avec mon mari, nous étions déjà dans l'excès. C'est-à-dire nous étions dans ce que l'on appelle l'alcool mondain, que beaucoup connaissent finalement. L'alcool mondain, c'est 2-3 verres par jour, parfois quotidien, et c'est surtout le week-end où, bien écoutez, on ne regarde pas trop le nombre de verres que l'on boit, sachant que, comme on était deux, on était en couple, Pierre et moi, on savait s'arrêter. Je le faisais pour moi-même, mais Pierre me surveillait, et réciproquement. Donc je n'étais pas encore dans la dépendance, j'étais dans l'excès. Pierre décède et là, très très rapidement, je tombe dans la dépendance. Alors, la dépendance, ça veut dire que l'on est drogué. Ça veut dire que tous les jours, ma seule obsession, et j'avais bien sûr des activités professionnelles, on reviendra là-dessus, mais ma seule obsession du matin était d'être très rapidement chez moi le soir et de tomber dans l'ivresse. En m'assurant bien sûr que j'avais suffisamment d'alcool chez moi le soir.
Oui, vous vous assuriez que vous aviez votre petite réserve.
Hein. Exactement. C'était l'obsession du matin. Ça, j'insiste là-dessus parce que beaucoup se retrouveront dans mes mots. Il y a 2 signes d'alerte avant de tomber dans la dépendance. C'est 1, le jour où vous ouvrez une bouteille pour vous toute seule ou tout seul. C'est une alerte. Et le jour ou le matin, mais parfois c'est le soir, hein. Chacun a son rythme, chacun, je dis, a son heure fatidique de manque d'alcool. Le jour où ça devient la seule obsession Eh bien, on est alcoolique. On est dans la dépendance de l'alcool.
Oui, vous expliquez, hein, donc vous êtes déjà venu vous exprimer à l'antenne d'Erdiwa avec le docteur Pierre Radisson dans le cadre d'une collaboration qui est en place entre le Centre de l'Aube et Erdiwa. Et donc vous évoquiez avec ce praticien que finalement l'alcoolisme, c'était le constat du fait qu'on perd sa liberté face à cette substance. Il donnait aussi le petit défi à chacun de s'abstenir durant une semaine. Si au bout de cette semaine, on n'a pas été capable de s'abstenir, c'est synonyme de perte de liberté et donc c'est un signal d'alerte, d'alarme.
Et tout à fait. La définition qui a été donnée en 1950 par le professeur Fouquet de l'alcoolisme, c'est la perte pour une personne de sa liberté par rapport à des boissons alcoolisées. Et donc quand j'utilise le mot « ma seule obsession du matin était l'alcool », j'ai donc bien entendu perdu ma liberté de vivre. Puisque tout est guidé, toute la journée, hein, et j'avais des occupations, hein, mais on en parlera, mais toute la journée est guidée par cet alcool. Alors moi c'était vers 17h, 18h. Alors, je voudrais revenir, comment suis-je devenue alcoolique? Et ça, je voudrais insister là-dessus par rapport aux jeunes. J'ai fait bien sûr un gros travail sur moi, on en reparlera, mais je me suis rendu compte que vers 16-17 ans, je buvais déjà. Mais personne ne me disait rien. Je suis plutôt d'un milieu bourgeois. Très tôt, je suis plutôt sortie dans des groupes plus âgés que moi, des groupes... des jeunes gens qui gagnaient déjà leur vie, plutôt argentés, et donc qui m'offraient des cocktails, c'est très clair dans ma tête, hein, sucrés, à base de rhum, c'était des Bacardi Coca, des perroquets, des choses comme ça, c'était très sucré. Et moi, je buvais ça à la paille, mais j'en prenais 5-6, et personne ne me disait rien. Et alors après, c'était, je me souviens, l'alcool à la rose, donc ça, c'était vers 4-5 heures du matin. Pourquoi j'en parle? Parce que donc mes soirées trop arrosées à l'époque où j'étais adolescente, elles démarraient de 19h et on était ivre vers 5-6h du matin. C'était surtout les week-ends, d'accord? Mais quand j'entends aujourd'hui les jeunes qui jouent à cette quête d'ivresse ponctuelle en une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est ce qu'on appelle le binge drinking, c'est un jeu. En fait, ces jeunes qui ont 16-17 ans, donc le même âge que le mien, ils jouent à ce jeu-là et le résultat final est le même puisqu'ils vont être ivres. Et moi, je l'étais simplement que c'était sur plusieurs heures, moi. C'est important. On ne le savait pas parce qu'on nous disait rien à l'époque. Hein. À 16-17 ans, votre cortex frontal n'est pas constitué. Donc l'alcool ou n'importe quelle drogue se transmet plus rapidement dans le cerveau. Donc déjà à l'époque... je crée un risque de dépendance à l'alcool.
Vous prépariez le terrain, finalement. C'est...
Exactement. Exactement. Je ne le savais pas.
Donc voilà, adolescente, les prémices d'un alcoolisme naissant bien visible. Hein. Et donc, vous êtes adulte, hein, vous rencontrez Pierre, vous mariez, tout semble parfait, malgré cet alcool mondain que vous avez évoqué en début de sujet. La mort de Pierre, et paf, vous tombez dans cette dépendance, dans cette perte de liberté face à l'alcool.
Oui, et en disant, pourquoi je tombe si rapidement? C'est simplement parce que à l'époque, quand j'étais adolescent, j'avais déjà préparé le terrain. Je me suis vraiment posé la question. Je me dis, mais comment ça se fait qu'en une année, c'est-à-dire 35-36, je deviens complètement accro à l'alcool? Mais c'est les médecins qui m'ont expliqué, mais attendez, on va refaire votre histoire. Et c'est important ce que je dis. Hein, ça veut dire que, voilà, moi j'avais préparé le terrain, j'avais préparé le cerveau, j'avais préparé les circuits de récompense et je ne maîtrisais plus rien. Donc 36 ans, je deviens complètement dépendante. Le problème, c'est que parallèlement, je fais une chouette carrière professionnelle, une belle carrière d'ailleurs. Je reste juriste au départ, mais je passe responsable juridique, directeur juridique, secrétaire général dans des grands groupes. Je voyage beaucoup. Donc les repas d'affaires, les nuits dans les hôtels, les cocktails... et j'avais donc de l'alcool tous les midis quasiment et souvent le soir. Voilà, donc là je m'adonne à, on va dire, à l'alcoolisme professionnel. Je fais cette carrière plutôt dans le monde du BTP, le monde de la construction, c'est-à-dire un monde d'hommes où l'on boit beaucoup. Les secteurs où on boit le plus sont la construction, la pêche, l'agriculture et la restauration. Et là, bêtement, je bois comme un homme. C'est-à-dire, j'ai peur d'être exclue. Il y a très peu de femmes dans ce monde-là. Et c'est une erreur de jugement grotesque. Mais pour ne pas être exclue du groupe, je bois beaucoup trop. Alors, on me repère très vite. Parce qu'une femme qui boit, ça jase. Enfin, on jase beaucoup, très vite. Bien sûr, on ne le dit pas en face. Mais ça me revient aux oreilles tôt ou tard. Et à ce moment-là, c'est moi qui m'exclus du groupe. C'est-à-dire que j'arrive à, prenons un cocktail qui démarre à 17h, hein. Bon, bah là, on est au mois de janvier, donc c'était les vœux, les cérémonies de nouvelle année. Et à la fin de ma carrière, j'en avais 7. J'avais 7 filiales, donc j'avais 7 pots, 7 cérémonies, j'arrivais plus à les gérer. Donc ça démarrait vers 5-6h. Donc à ce moment-là, je m'arrête à la 4e ou à la 5e coupe de champagne, suffisamment à temps pour reprendre ma voiture de fonction. Je ne vous dis pas le nombre de grammes d'alcool, mon taux d'alcoolémie est bien sûr bien trop élevé pour prendre le volant, mais je le prends quand même. Et là, j'arrive chez moi vers 6h30, 7h, et je continue mon alcool chez moi, toute seule.
Eh oui, oui, oui.
Vous voyez, quand on ne peut pas jusqu'à l'ivresse, on n'a plus de plaisir, on est malade, on est drogué. On ne sait plus arrêter cette main sur la bouteille. On souffre horriblement. Et finalement, c'est un suicide à petit feu.
Alors effectivement, là, un besoin physique, hein, flagrant. Et d'ailleurs, vous ne vous en amusez plus de l'alcool. Hein. J'imagine que ces premiers effets euphoriques ne le sont plus à cette heure-ci.
Non, on n'a plus. Si vous voulez, les trois dernières années, donc 2007, 2009, 2006, 2009, les trois dernières années sont très cruelles pour moi. Je suis tout à fait consciente. De la femme que je suis, je dirais quelqu'un à la dérive complète. Je perds beaucoup d'amis, j'avais déjà longtemps perdu ma famille, je vais perdre mon travail, ça il faudra qu'on en parle, et je ne suis plus dans le déni par rapport à moi, donc je suis dans une tristesse épouvantable. Et si vous lisez bien Le Petit Prince de Saint-Exupéry, quand le petit prince pose la question au joueur, pourquoi tu es triste? Je bois. Pourquoi tu bois? Pour oublier. Pour oublier quoi? Oublier la honte de boire. Donc vous n'avez plus de plaisir. C'est un suicide à petit feu. Et n'oublions pas non plus que très souvent, nous cumulons d'autres drogues. Moi, personnellement, je cumulais l'alcool, les psychotropes. Donc j'augmentais les doses, donc le Xanax, le Lexonil, le tabac. Et j'avais une tendance à la boulimie.
Eh oui, mais ça, elle existait avant, cette tendance ?
Oui.
Oui.
Oui, vous avez donc lu mon livre ?
Tout à fait, effectivement, on le sent. Hein, on sent chez cette petite fille que vous étiez à l'époque, déjà un complexe qui se traduit par la non-appréciation de son physique. Vous êtes très critique par rapport à votre physique. On vous appelle en plus une fois sur deux la grosse. Donc effectivement, ça nourrit une forme de lacune que vous venez compenser. Je vous laisse développer.
Oui, c'est intéressant parce que là, vous évoquez en fait la question cruciale d'une addiction. C'est pas l'alcool qui va intéresser le médecin ou le psychologue qui va vous suivre dans le traitement global des soins. Le produit, à la limite, qu'importe le produit, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière le produit.
Mmh, c'est le rapport au produit.
Voilà. Et là, chaque personne dans l'addiction a son histoire, a ses souffrances, a ses blessures. Mon parcours à moi, j'ai osé l'écrire. C'est donc le livre à écrire, mais j'ai pris un pseudonyme, hein, Constance Carsen, tellement j'étais honteuse de dévoiler mon mal-être. Et donc je développe chapitre par chapitre, et effectivement, on devine que très petite, je baigne dans un manque d'amour. Je le comble par de la nourriture sucrée, et donc on m'appelle la grosse.
Les pâtisseries, hein, que vous évoquez.
Je suis dans une quête identitaire, et ça, je laisserai le lecteur découvrir le livre et deviner laquelle. Et tant que je n'ai pas fait ce gros travail sur moi, qui est la troisième étape des soins, celle que l'on appelle la sobriété émotionnelle. Tant que vous n'apprenez pas à gérer et à dépasser vos souffrances, vous n'arriverez pas à vous à éliminer complètement et définitivement l'alcool ou une autre dépendance. Donc, en l'occurrence, pour moi, c'était la boulimie.
Tout à fait. Alors là, si je puis me permettre, Laurence, on va reprendre un petit peu la chronologie de votre histoire. Hein. Donc là, vous êtes au creux de la vague. Hein. C'est 95-96, c'est ça, c'est la fin de votre alcoolisme. 95-96. Donc là, vous prenez non plus conscience, mais vous mettez en place des outils susceptibles de vous aider. Vous sortez votre feuille de papier blanc et votre stylo. Là, vous commencez à exulter, mais il y a aussi un accompagnement derrière, en ambulatoire, me semble-t-il.
Oui, oui. En fait, il y a eu une chose terrible, c'est que donc j'évoquais les cérémonies de vœux, hein, et début 2009. Je m'effondre, ivre morte, à la cérémonie des vœux du groupe dans lequel j'étais directeur des risques à l'époque. Je m'effondre, ivre morte. Vous imaginez le spectacle.
Directeur des risques en plus.
Oui, directeur des risques. Oui. Mais justement, j'avais une bonne expérience des risques et j'étais affolée de ce que je voyais autour de moi. J'étais pas toute seule à boire. J'étais pas toute seule dans le cannabis ou autre. Hein. Il n'empêche que 3 jours plus tard, je perds mon travail. Et j'insiste. Hein. Lorsqu'on est au bout de la course de l'alcoolisme, très souvent, c'est des drames. Moi, ça a été la perte de mon travail. Pour une autre, ce sera la perte de la garde de son enfant. Pour un troisième, ça va être la perte de sa conjointe, etc. Et là, j'ai eu une chance inouïe. Le 24 janvier 2009, à 19h, je fais une rencontre et je n'ai plus touché une goutte d'alcool. C'est-à-dire, dans quelques jours, ça va faire 5 ans.
Bravo.
C'est gentil.
Oui, oui, vraiment.
Et ça va être le sens de mon deuxième livre, on en parlera après. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai fait une rencontre. Il y a une parole qui a été prononcée et qui m'a sauvée. Mais surtout, j'ai rencontré un médecin alcoologue à Paris. Donc, 3 jours après la perte de mon boulot. Je lui ai raconté ce qui s'est passé. Et en quelques mots, il m'a complètement déculpabilisée. Il m'a dit, madame, n'ayez pas de regrets. C'est pas de votre faute. Vous êtes malade. Vous êtes droguée. Et en fait, je reprends tout ce que j'ai déjà évoqué en début de l'interview. Et là, ce médecin, en me mettant sur le plan médical, et non plus sur celui de la morale, c'est-à-dire le cliché de la femme qui boit, la dépravée, la pochetronne, etc. Ça me déculpabilise complètement. Et après 3-4 séances, je me dis, bon, j'ai une maladie grave, l'alcoolisme. C'est comme si j'avais un cancer. Je vais l'assumer. Je vais mettre en place le traitement des soins pour m'en sortir. Et on peut s'en sortir, j'en suis la preuve vivante. Hein. Mais c'est cette déculpabilisation qui a été la première étape du traitement des soins. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Tout à fait. Effectivement, le fait d'apprendre que vous avez un terrain de prédisposition, que vous êtes touché par cette maladie, tout à fait. L'alcoolisme est une maladie, au même titre d'ailleurs que toute forme d'autres maladies susceptibles de nous infecter. Vous êtes infecté par la maladie de l'alcool. Et là, cette notion de morale que vous évoquez très bien ne vient pas, comment dirais-je, parasiter vos actions, puisque de toute façon, c'est un fait, vous êtes malade. Que ce soit moral ou pas, c'est ainsi. Donc là, vous adoptez le traitement adéquat, me semble-t-il.
Voilà, et ça a été, une fois que vous avez compris ça, ça a été extrêmement rapide. Je ne dis pas que ce n'est pas dur, hein. Tous les jours, c'est un combat, voilà. Mais quand vous acceptez cette maladie, quand vous n'avez plus honte de ce que vous avez été. Et si vous prenez après, si vous mettez en place des règles d'urgence de tous les jours pour vivre sans alcool, vous n'avez plus de problème. Mais c'est pas gagné. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à dire en termes d'information et de prévention. Et donc merci Aurélie de me permettre de m'exprimer. parce que nous ne sommes que 10 à 20% à dire droit dans les yeux, je suis alcoolique abstinente depuis 4 ans. 10 à 20%.
Il y a encore du travail, effectivement. Hein.
Donc c'est la récidive qui est là.
Donc vous, effectivement, vous ne serez jamais guérie de cet alcoolisme. Par contre, vous êtes abstinente, alcoolique abstinente.
Oui, alors là, il y a tout un débat de sémantique. Est-ce que je suis guérie? Est-ce que je suis pas guérie? Certains disent oui, certains disent non. Bon, moi personnellement, je crois que le débat, il n'est pas là. Dans le livre, le deuxième dont vous parlerez, vous verrez que la préface est faite par un psychiatre addictologue. Et lui, dans sa préface, il dit, ben voilà, Laurence, elle est guérie. Et elle est au sommet de l'iceberg, de la guérison. Donc lui, il parle de guérison. Bon. Si vous allez chez les alcooliques anonymes, une des premières choses qu'ils vous expliquent, c'est qu'on ne sera jamais guéri, qu'on sera juste rétabli, stabilisé. Je dirais donc qu'importe le débat, moi je sais simplement que je suis en rémission. J'appelle ça en rémission. En fait, j'applique ce que le cancer de mon mari m'a appris. C'est intéressant d'ailleurs, Pierre, quand il a su qu'il avait un cancer, donc 5 ans avant sa mort, il a dit « bon, moi, je vais me battre ». Il s'est battu, il a accepté l'opération, la chimio, la radiothérapie, et ensuite, il a toujours affiché sa maladie. Il a perdu tous ses cheveux, il n'a pas voulu mettre sa perruque. Et il disait à tout le monde « j'ai un cancer, je me bats ». Bon. Et finalement, il a eu 5 années de rémission. C'est un très bel exemple, mais je me l'applique à moi. C'est-à-dire, j'ai pas honte donc de ma maladie. Hein, j'en parle à qui souhaite avoir quelques précisions sur cette maladie beaucoup trop tabou. D'accord, c'est ce que je fais donc avec vous. Mais vous avez peu de gens qui le font encore. Hein, parce que même lorsqu'on a arrêté de boire, on se sent obligé de se cacher. Non. Moi, je dis, je suis malade d'alcool. Je suis en rémission. Je n'ai plus droit à un verre d'alcool. Donc, je vous en prie. Acceptez que je ne puisse pas boire à vos côtés et ne me tentez pas avec un nouveau verre de vin. Donc c'est toute une méthode de nouvelle vie sans alcool que j'ai mis en place et donc, très honnêtement, moi je me sens guérie. Mais c'est pas forcément le mot qu'il faut employer.
En tout cas, le rapport à l'alcool que vous avez effectivement aujourd'hui est sain puisque vous l'avez décidé, puisque vous le tenez ce choix-là, hein, de ne retomber dans les méandres de cette maladie. Par contre, il vous suffirait de reboire une goutte pour que très vite cette épée de Damoclès vous tombe sur la tête, j'imagine.
Alors là, il faut insister là-dessus, Aurélie. Le vrai alcoolique dépendant, tel que j'ai été, n'a plus droit à une seule goutte d'alcool. C'est à nouveau démontré en neurobiologie. Si d'aventure je prenais une gorgée de vin, elle va réactiver les circuits neurotransmetteurs. Enfin, je suis pas médecin, mais j'ai compris ça. Et tout le système de récompense va se remettre en branle. Je sais que je ne m'arrêterai pas. Voilà. Et c'est important ce qu'on vient de dire, parce que d'autres diront non, non, on peut essayer de stabiliser. Et il y a quelques médicaments qui existent pour cela, dont le baclofène qui fait énormément débat. Donc tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Moi personnellement, j'applique une abstinence totale et définitive de l'alcool, alors que je continue à aimer l'alcool.
Mmh. En tout cas, cette abstinence vous permet de sortir votre premier livre, hein, le livre à écrire, hein, où vous expliquez, vous retracez le parcours qu'on vient d'évoquer succinctement. Suite à cela, vous devenez vous-même accompagnatrice. Alors ça se fait en parallèle de l'édition d'un deuxième livre, d'ailleurs, hein, me semble-t-il.
Oui. Ça n'a pas été si rapide que ça. Hein. L'étape de la sobriété émotionnelle, hein, dont j'ai parlé, moi, j'ai mis 3 ans hein, pour la voir aboutir. Donc, par l'écriture du premier livre à écrire, donc sous pseudonyme de Constance Larsen. Ensuite, comme j'étais juriste, ben, figurez-vous que je prête serment et je deviens avocate. Là, je fais beaucoup de bénévolat dans un premier temps et je me rends compte que c'est pas ça mon désir. Je sais gérer techniquement les dossiers, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe derrière les dossiers. Et là, je me rends compte que beaucoup, beaucoup de drames humains ont pour origine l'alcool ou d'autres addictions. Donc je continue à travailler sur ce terrain, là, et je vis moi-même un autre drame. Et épouvantable. Je perds, il y a à peine 2 ans, ma petite sœur, Marie, qui met fin à ses jours. Elle avait 42 ans et j'ai failli de nouveau, vous imaginez, rebasculer dans l'alcool. Pour moi, c'était un deuxième deuil en pleine figure. Tous les ingrédients étaient là pour que je repicole. Et finalement, je m'enferme dans mon petit appartement et je réfléchis et je me dis, bon, là, je vais écrire, parce que beaucoup de personnes me le demandent aussi, je vais écrire un livre sur l'alcool. Ce que je fais, donc de nouveau l'écriture, la solitude, les notes de Chopin, voilà, je fais mon deuil à ma manière, je ne repicole pas. Et, eh bien, écoutez, en juin 2013, j'ai du culot. Je vais à Paris et je fais quelques maisons d'édition. Et donc, j'ai cette très grande chance d'être reçue par une éditrice, je veux dire son nom, Hélène de Castilla, chez Interédition. Et en quelques réunions, elle s'intéresse à mon livre. Elle me demande de le retravailler, ce qui est normal. Et figurez-vous que j'ai cette très grande chance de pouvoir présenter donc mon deuxième livre grâce à elle, donc chez Interédition.
Dont le titre est « Non, j'ai arrêté ». Donc ça a l'air bien décidé par contre là.
Oui, j'ai pas le droit de me tromper.
Eh oui.
Donc voilà, comme quoi on peut reconstruire une nouvelle vie. Pour tout vous dire, on est aujourd'hui le 16 janvier et j'ai eu mon exemplaire hier. C'est un livre « Non, j'ai arrêté », donc c'est l'alcool. Le titre c'est « Trouver un chemin de sortie face à l'alcool ». Et là, en toute simplicité, je développe une méthode. Vous en avez un petit peu parlé au départ.
Donc la méthode 12 d'accompagnement H3D, c'est bien ça?
Exactement. Je dis que c'est une méthode douce face à une drogue devenue dure pour 5 millions de personnes. Enfin, j'exagère, 3 millions de personnes. L'alcool. C'est une méthode que j'ai baptisée H3D et qui est très simple, qui s'applique parallèlement à la mise en place du traitement global des soins qui sera donc mis en place par le médecin, par le psychologue et n'oublions pas également grâce à l'aide des groupes d'entraide d'anciens buveurs. Mmh. Ma méthode, elle, c'est 4 mots. On en a déjà cité un tout à l'heure. Le premier mot, c'est la honte. Donc le premier H, hein, ne pas avoir honte de cette maladie. L'alcoolisme, c'est pas une maladie honteuse, c'est pas un vice, c'est pas une tare, c'est une maladie. Ne pas avoir honte de son passé d'alcoolique, puisque nous n'étions pas responsables de cette maladie, nous étions drogués, et il convient maintenant de réparer ce qui est réparable. J'y reviendrai. Le deuxième H, c'est honnêteté. Il faut être honnête avec soi-même, et j'invite donc le lecteur à répondre à un test dans le livre, page 97, à 10 questions. Si vous répondez oui à une ou deux ou trois questions, vous avez un problème d'alcool et là, il faut avoir l'honnêteté, il faut être honnête avec soi-même pour accepter la situation et aller en parler avec une personne compétente. Le troisième H, c'est humilité. Face à l'alcool, on ne peut pas s'en sortir seul. Il faut donc avoir l'humilité, la modestie d'accepter de l'aide. Et ça, c'est très dur. Moi, j'ai mis 3 ans avant d'avoir l'humilité d'aller voir ce médecin qui m'explique que je n'ai pas à avoir honte, etc. Mmh. Donc, c'est un travail à faire sur soi. Mais finalement, donc, ces 3 H, honte, honnêteté, humilité, si vous les appliquez, ils vont vous permettre la mise en place du traitement des soins. C'est plus ou moins rapide en fonction de la personne, hein, chacun son rythme. Et tout doucement, vous allez travailler cette 3e étape des soins que j'ai appelée la sobriété émotionnelle, et vous allez évoluer vers un ou plusieurs désirs. C'est donc le D, ma méthode H3D. En ce qui me concerne, le désir principal est de faire ce que je fais aujourd'hui à l'antenne grâce à vous, Aurélie, mon désir, et de témoigner à visage découvert de cette maladie, de lever les tabous en précisant qu'elle peut toucher n'importe qui, à n'importe quel âge, dans n'importe quelle situation professionnelle, quelle que soit sa culture, son son intelligence, sa religion, etc. Mon désir est de donner de l'espoir aux 5 millions de personnes qui ont un problème avec l'alcool. Cet espoir que l'on peut s'en sortir, j'en suis le témoin vivant. J'ai aujourd'hui 52 ans et j'ai complètement reconstruit une vie sans alcool depuis 5 ans. Et c'est donc mon désir qui est devenu, dans quelques mois, qui deviendra un désir professionnel puisque je quitte mon travail d'avocat. Donc je laisse tomber de la robe pour commencer donc tout doucement, grâce à ce livre qui j'espère prendra son envol, mais faire des conférences, et je commence vraiment à en faire pas mal, et après du coaching hein, pour l'application de la méthode H3D parallèlement au corps médical.
Donc là, ce que vous dites, c'est que cette méthode H3D est un complément d'aide, un complément de soutien. Est-ce que cette méthode H3D, on peut l'appliquer sans avoir le soutien d'une équipe médicale ?
En fait, je vois les deux situations. Moi, j'ai commencé en tant qu'accompagnateur, mais tout à fait bénévole, hein, à accompagner donc des personnes en appliquant cette méthode H3D. Bien sûr, là, on la résume brièvement, mais elle est bien expliquée dans le livre. Hein. Et je me rends compte que vous avez des gens qui, quand ils n'ont pas de complications médicales, ni psychiques, hein, ces gens-là s'en sortent avec la méthode H3D. Par contre, je les ai tous les jours au téléphone pendant 3 quarts d'heure.
Un coaching de proximité, j'ai envie de dire. Vous.
Exact.
Très régulièrement.
Sur Internet. Et je les ai rencontrés d'abord une première fois pour voir si on va coller ensemble. Hein, parce qu'il y a la relation, l'alliance thérapeutique qui doit se faire. Hein.
Des affinités, hein, tout simplement.
Pour d'autres personnes, il faudra le médecin et le psychologue parfois. Si une blessure profonde est à l'origine de l'alcoolisation. Hein. Quand je dis une blessure profonde, ça peut être un viol, ça peut être un inceste, ça peut être des femmes battues. Les femmes battues boivent beaucoup. Hein. Il y a parfois vraiment des drames qui expliquent le parcours de l'alcoolique. Hein. Et là, c'est un soutien beaucoup plus lourd sur le plan psy, et je ne suis pas psy.
C'est bien de le rappeler, effectivement.
Oui, chacun son rôle. Par contre, je reste de plus en plus persuadée que pour aider le malade, c'est un travail en réseau qui doit se faire. C'est-à-dire le corps médical, j'y inclus donc les psys, les buveurs abstinents, leurs témoignages et leur entourage, leurs conseils sont extrêmement bénéfiques. Et puis après, les coachs. Hein. Moi, je vais devenir donc très prochainement coach, tout à fait officiellement, en alcoolologie et relations humaines. Et donc, ce travail en réseau donnera de bien meilleurs résultats en termes d'absence de récidive dont je parlais. Hein.
Oui, une coordination, une mutualisation hein, des outils à disposition du malade alcoolique, là, pour le coup, hein, on peut le dire. En tout cas, voilà, vous pouvez retrouver donc le livre à écrire un peu partout, dans toutes les bonnes librairies et sur certains sites internet. Le deuxième livre donc de Laurence Côté, est-ce que d'ailleurs vous l'avez écrit sous Constance Larsen ?
Eh bien non, Aurélie, parce que...
Ça y est,
moi, je m'appelle Laurence Côté, et donc j'affiche complètement ma maladie. Hein, le plus naturellement possible. Donc non, donc l'auteur c'est Laurence Côté, c'est non, j'ai arrêté. Et donc ça sort chez Interédition avec une très belle préface. Je reprends et je profite de remercier Laurent Carilla, qui est donc un médecin, un psychiatre, addictologue à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, et qui après, très simplement, après m'avoir écouté à une conférence, est venu me voir en me disant « mais moi, ça m'intéresse ». Et puis en fait, il a fait la préface. Je suis très heureuse et apaisée parce que dans sa préface, il parle de ma méthode et il la décline. Donc il l'adopte.
Toujours est-il que le combat continue puisque vous êtes bientôt aujourd'hui coach pour la méthode H3D que l'on vient de développer. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez lancé une pétition aussi hein, afin d'organiser une première, donc la journée sans alcool. Est-ce que vous voulez en parler, Laurence ?
Avec plaisir. Avec plaisir parce que cette idée m'est venue il y a 3 mois. Je discutais avec des jeunes femmes qui n'ont pas de problème d'alcool, bien que certaines d'entre elles se posaient les questions si elles n'étaient pas dans l'excès. Et plusieurs d'entre elles me posaient la question, mais finalement, à partir de quand on sait qu'on a un problème avec l'alcool ? Et moi, j'ai répondu, à partir du moment où on se rend compte qu'on ne peut plus se passer de son petit verre. Et là, l'une d'entre elles m'a dit, mais une de mes amies, Caroline, elle a dit, mais dites donc, et pourquoi on ne créerait pas la journée sans alcool? Et moi, j'ai dit, c'est vrai, elle n'existe pas. Voilà. Et donc, ça a été très vite mis en branle. On a déposé une pétition sur un site, donc c'est le site change.org. La pétition est très simple, hein. Une journée sans alcool en 2014. Eh bien, figurez-vous que nous avons déjà, donc en 3 mois, 15 000 signatures, plus des tas de signatures qui m'arrivent dans ma boîte aux lettres sur des feuilles. Donc, les gens qui n'ont pas Internet mettent leur nom et signent. Donc, j'en ai dans ma boîte aux lettres, donc ça arrive. Et j'ai quand même la grande joie de dire que Patrick Chesnais, par exemple, acteur réalisateur, qui est le président de l'association Ferdinand, et qui lutte contre l'alcool au volant, me soutient, Patrick Chesnais. J'ai le soutien de Mylène de Mongeau, j'ai le soutien de beaucoup de médecins alcoologues. Donc je crois que l'idée est bonne. Il faut continuer à soutenir cette initiative, car c'est une initiative de groupe maintenant, hein. C'est pas moi toute seule. Et je me connais, bien sûr, c'est une pétition que j'irai porter si elle veut bien me recevoir, mais c'est une pétition qui s'adresse au ministre de la Santé, donc Marisol Touraine. Et j'insiste, dans le texte de la pétition, je précise bien qu'il ne s'agit pas d'une pétition contre l'alcool. Dans mon deuxième livre, je dis bien que je continue à aimer l'alcool, que je suis fière de mon pays, qui est le premier producteur, un des tout premiers producteurs de cet élixir, que le vin est notre meilleur ambassadeur. C'est une pétition contre l'alcoolisme, c'est-à-dire contre une maladie trop méconnue. Et je me réjouis pour les 9 dixièmes des Français qui n'ont pas de problème avec l'alcool. Je leur demande simplement de nous aider, nous qui en avons, de vivre sans alcool, mais surtout également de prévenir les jeunes et de s'interroger une fois par an sur sa consommation d'alcool.
Comment pensez-vous que cette journée tout particulièrement viendra titiller les oreilles de nos concitoyens et les faire réfléchir ?
Moi, j'y crois énormément parce que je sais qu'en ce qui me concerne, dans ma vie d'alcoolique, je me suis rendu compte que j'étais alcoolique le jour où on m'a privé d'un verre de vin. Pour une raison X, hein, je suis tombée en rade dans le TGV. Et donc, j'arrivais trop tard et j'étais en manque, quoi. Là, je me suis dit, ça y est, je ne sais plus me passer de vin. Donc, je pense qu'une fois par an, chacun va se poser sa question. Hein. C'est, tiens, aujourd'hui, je ne vais pas prendre mon petit verre de vin. Hein. Pour un autre, ça va être de dire, tiens, aujourd'hui, je ne vais en prendre que 2 et pas 3. Il faut qu'au cours de cette journée-là, en fonction de sa consommation d'alcool, on puisse en profiter pour parler de l'alcoolisme comme nous venons maintenant de le faire pendant 3 quarts d'heure, Aurélie.
Donc ce sera certainement jumelé avec des actions, des conférences, des...
Ah, bien sûr, des écoles. Chaque commune peut prendre aussi des initiatives. Voilà, on interpelle la population, les Français, sur le produit alcool en disant, attention, ça restera toujours un bon produit si on le consomme avec modération.
Comme toutes les substances d'ailleurs.
Oui, mais en fait, c'est différent pour le tabac. Aujourd'hui, tout le monde va dire que le tabac n'apporte rien comme bienfait. Mais pas l'alcool. L'alcool, moi j'ai eu ma grand-mère, elle prenait son petit Porto, j'ai 99 ans, hein, elle n'a pas eu de problème. Hein, les produits ne sont pas comparables. Quand on ne peut plus s'en passer, on est accro, on est drogué, mais moi ça m'est tombé dessus d'un seul coup.
Justement, lors d'une simple journée. Donc cette journée sera certainement à même de, au moins, nous amener à la réflexion. Quand le déposez-vous au ministère de la Santé?
J'ai de l'ambition pour tout le monde, nous avons 15 000 signatures. J'espère que grâce à des interviews hein, comme celle-là, les gens seront d'autant plus interpellés et iront signer, hein, puisqu'il faut aller sur Internet, hein, sur le site change.org. Moi, j'aimerais bien en avoir au moins 30 000. Donc le double va y arriver, parce que là, ça fait 3 mois à peine. Et donc, avec quelques-uns, soutenus par quelques médecins, j'espère que Laurent Carilla m'accompagnera, eh bien, on ira la porter. Donc moi, je situe ça peut-être après les élections municipales, parce que tout le monde va être très occupé avec ça, donc au mois d'avril.
Allez, ben en tout cas, n'hésitez pas, Laurence, à nous tenir informés hein, sur l'évolution de cette journée contre l'alcoolisme. Donc, Laurence Côté était avec moi dans l'interview du jour aujourd'hui, donc pour évoquer plusieurs actualités. Hein. Son premier livre, donc le livre a écrit aux éditions Public Book. Le deuxième livre arrive très bientôt dans nos bonnes librairies. Donc, Non, j'ai arrêté aux éditions Inter-Éditions. La journée aussi contre l'alcoolisme, la journée sans alcool sera bientôt présentée. Que dire d'autre, Laurence, si votre promotion en tant que, qu'accompagnateur, en tant que coach, hein, avec la méthode que vous avez donc imaginée, la méthode H3D. Aurais-je oublié quelque chose, Laurence ?
J'ai créé un site qui développe hein, tout ce qu'on a pu évoquer. Donc c'est www.laméthodeh3d.fr.
Et je crois
que vous aurez toute l'actualité, le livre, mes conférences, hein, et donc très prochainement l'ouverture officielle de mon cabinet de coaching.
Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. N'hésitez pas à nous en tenir informés. Je crois que vous êtes aussi sur un réseau, le 1, hein, qui commence par la lettre F, me semble-t-il. Est-ce que nos auditeurs peuvent passer par ce biais pour vous contacter ?
Oui, bien oui. Bah, justement, sur le site www, la méthode, vous avez la petite encoche, la Facebook, et oui. Donc vous allez tomber sur mon site. Et là, effectivement, tout le monde peut me rejoindre sur ce site, sans problème.
C'est parfait, Laurence. Je vous remercie de votre témoignage hein, qui, à tous les coups, moi, me touche, me ravit aussi. Hein. Vous êtes la preuve vivante que l'on peut se sortir de cette maladie qu'est l'alcool, qu'est l'alcoolisme. Merci à vous de votre honnêteté et de votre envie de transmettre et de répandre vos observations autour de cette problématique. Je vous laisse le mot de la fin, Laurence.
Bah écoutez, moi-même je suis émue, Aurélie, parce que c'est pas facile d'aborder ce sujet. Ça a été d'ailleurs, moi, la chose la plus difficile pour m'en sortir a été de parler de mon alcoolisme. Donc on en revient, il faut dépasser cette honte, et vous me donnez l'occasion de le faire à visage découvert à l'antenne. Donc merci Aurélie, merci donc aux auditeurs qui ont suivi, qui ont écouté cette interview. Merci.
Et la suite au prochain épisode, j'ai envie de dire.
Avec plaisir. Au
revoir, Laurence.
Interview. 1, terre.
Hey, the bird.
Interview. L'interview du jour.